Et
oui,
ensuite, nous sommes allés à Laval, et du coup, Manu...
Et Manu va venir faire un petit compte-rendu sur Laval. Alors, c'est pareil, hein, scène punk à Laval, on se dit, bon... Et en fait, grosse surprise. Et c'est ça qui est bien dans ce projet, c'est qu'on est toujours surpris.
Et les acteurs eux-mêmes étaient surpris, d'ailleurs.
Je pense, ouais. Tout le monde s'est surpris ce jour-là.
Alors, la journée à Laval, elle était co-organisée avec la SMAC, le 6x4, la SMAC du coin. Donc ça a été un long processus qui a duré quand même quelques mois, voire un an et demi, parce qu'à cause du Covid, forcément, qui a bien retardé tout ça. On avait fait déjà un premier aller-retour pour essayer d'organiser ça avec eux, et le lien s'est maintenu, donc c'était plutôt chouette. Ça a été organisé à la SCOMAM, un lieu d'exposition où nous avions accroché d'ailleurs les peintures d'Antoine Rigal, le premier intervenant haut en couleur et dans tous les sens du terme. Hein, de cette, allez, on va dire deuxième génération, il avait commencé durant les années 80. Cette journée, elle s'est ouverte du coup sur cette, je dirais, première et deuxième génération autour voilà, des groupes Génocide, Détritus, autour du disquaire, Mélodie... qui a été un peu un lieu de rencontre hein, du coup pour les élus de la scène, même si les premiers acteurs et les deuxièmes acteurs ont dit très vite s'être délocalisés sur Rennes, disant que il ne se passait rien à Laval. Et ça a été un point important. Et comme le dit Luc, je suis parfaitement en adéquation avec ce qu'il dit, c'est qu'on se rend compte que, ben, en fait, au-delà des discours, il se passe bien des choses, hein, parce que effectivement, et c'est ça qui est pas forcément conscientisé pour les acteurs, c'est que. Et je crois que ça fait partie, et je le dirais humblement, de la réussite de cette journée-là, hein, allez, humblement, c'est que ça a permis d'éclairer et de mettre en exergue les liens intergénérationnels qui n'étaient pas forcément conscientisés ou pensés comme tels, et qui se sont dilués sur les 50 années hein, qui ont traversé la scène punk, du moins à Laval, allez, presque 50 années. Déjà, c'est le fait de, effectivement, sur la première partie de la journée, je dirais, je la rebaptiserai « ce qui les oppose ». La première partie de la journée, donc Antoine Rigal, l'artiste, est venu discuter. Quentin Sauvé est venu discuter aussi pour parler de son projet solo, qui il joue aussi dans Bird in Row, mais il est plutôt venu à ce moment-là parler de son projet solo et de la manière dont il essaye de faire carrière. Et c'est là où, effectivement, je dirais, la discussion s'est faite autour d'une table ronde avec Antoine, Quentin qui est resté et Laurent des Ramoneurs de Menhir pour discuter justement sur cette question de carrière. Parce que ça avait quand même titillé, hein, effectivement, les membres de la première génération de dire « mais nous, on ne fait pas ça pour la carrière ». Et je dirais que les membres de la première et de la deuxième génération ont vraiment discuté de ce truc-là, nous, en valorisant une forme de bohème. C'était leur manière de se définir le punk. Le punk, ce n'est pas une carrière, on ne fait pas ça pour l'argent, tout est à prix libre. Et effectivement, il y avait un choc des générationnels à ce moment-là pour dire les jeunes disaient « ben non, c'est plus compliqué que ça, effectivement ». Donc ça, ils se sont opposés un petit peu là-dessus. Ensuite, comment ça s'est passé? Il y a eu, je dirais, un peu plus d'espace pour cette seconde génération, enfin cette dernière génération, et sur ce lien intergénérationnel qu'il y a eu avec la troisième, notamment autour de David Tessier, ce grand pédagogue hein, un petit peu qui a préparé au métier punk. Je crois que c'est comme ça que Luc et Solveig l'avaient dit sur le programme, mais c'est très juste quand même, se préparer au métier punk. Et donc je rebaptiserai cette seconde partie de la journée mais ce qui les lie en fait quoi. Donc David Tessier et Patrick Levanier en 92 avaient créé cette école de Créasic, une école assez particulière où on apprenait comment dire une méthode plutôt punk effectivement hein, de qui était le fruit de cette expérience je dirais de musiciens punk, du coup DIY, qui a été porté comme un programme pédagogique, mais pas pensé comme tel, quoi. C'est ça qui était assez particulier. Donc, encore un paradoxe. Comment apprendre sans se donner les allures d'un apprentissage scolaire, quoi. C'est assez intéressant. Et du coup, c'est ce qui est relevé et c'est ce qui a permis, effectivement, autour d'une table ronde ensuite, de pouvoir faire discuter David Tessier à Maurice Sauvé autour de son studio Diapiari, qui a vu nombre d'acteurs de la scène enregistrés, dont moi d'ailleurs, au passage, mais surtout des groupes comme Birds in Row, hein, bon, on ne les cite plus, effectivement, mais Walls, Pavilion Grandstand, les Toulousains, beaucoup de scènes, effectivement, beaucoup de groupes de la scène punk. Et donc, du coup, cette école Créasic a pu donner naissance, effectivement, à toute une initiative qui a donné un quatrième souffle hein, à cette scène punk lavalloise et qui a pu montrer qu'effectivement ce legs qui était resté, je dirais, entre cette première génération qui pensait n'avoir rien laissé derrière et cette dernière génération qui voyaient bien qu'effectivement, au-delà des oppositions, il y avait un continuum qui se créait autour de la journée. Et je pense que, quelque part, on peut un peu se féliciter, et surtout les intervenants, de nous avoir montré ça, et ce qui était effectivement des intuitions, ce qu'on relevait dans nos recherches, et c'était le projet d'ailleurs du projet TWIN, hein, de refaire l'histoire de la scène punk, et là, on a eu une capsule, je dirais, qui venait affirmer empiriquement ce qui restait comme une intuition, ou du moins comme une intuition très forte, quoi. Il y a eu quand même cette fameuse entracte avec Voto, le fameux documentaire et l'interview qu'il a fait sur le tatoueur, du coup, Romain Parejo, hein, un super tatoueur d'une quarantaine d'années, effectivement, qui a eu un parcours assez grandiose, hein, entre, si je me souviens bien, le sport, le straight edge et effectivement le tatouage, le skate, ouais. Donc, ce qui rejoint aussi, hein, d'ailleurs, effectivement, la culture skate, encore une fois, à la musique punk, hein. Il y a beaucoup de liens à faire. Et enfin, la journée d'études s'est terminée sur, je dirais, sur une discussion entre, du coup, Bart Balboa, tatoueur, et aussi guitariste-chanteur du groupe Birds in Row. Et une discussion croisée que l'on a réalisée à deux, du coup, ensemble, pour autour de, je dirais, du paradoxe central au cœur de cette dernière génération, qui serait peut-être une professionnalisation non professionnelle ou non pensée comme telle, quoi. On voit bien qu'il y a une forme de rationalisation dans les discours, une pratique punk qui doit faire l'objet d'un projet, mais qui ne doit être pas professionnel pour rester pur. Voilà, c'était un petit peu, je dirais, ça qui était au centre de notre conversation. Et enfin, après, la journée s'est terminée sur ce fameux concert avec le groupe de reprise, effectivement, de... Non, pas de reprise. Oui, mais aussi le groupe, effectivement, de David de Tessier. Mmh. Et enfin, de Birds in Row, qui nous ont offert, effectivement, pour, comment dire, leur... un set sur leur dernier album qu'ils n'avaient jamais joué avant et qui, de façon inédite, ont joué, effectivement. voilà, donc j'espère avoir bien synthétisé cette journée.
Et surtout, moi, ce qui m'a marqué là à Laval, c'est que justement, le concert de Birds in Row, on ne fait pas tout le temps ça parce qu'on n'a pas tout le temps l'occasion, mais ça donnait vraiment beaucoup de sens toute la journée d'études. Ouais. Au concert, c'était un peu, comme on dit dans la musique baroque, historiquement informé, mais c'était vraiment ça, on était plus riches de toute la journée pour écouter ce concert, donc c'était vraiment, c'est des choses qu'on va essayer de refaire à l'avenir, parce que ça donne du sens vraiment à la fois à la journée et à la fois au moment musical qu'il y a derrière, donc c'était... Et j'ajoute que Manu, on te remercie beaucoup parce que tu as remarquablement bien géré cette journée qui n'était pas du tout facile parce que il a dit modestement, mais les enjeux générationnels étaient en réalité extrêmement forts. Fallait voir Laurane Desberru faire la leçon aux petits jeunes. C'était assez déplaisant et c'était parfois assez tendu. Et Manu a très 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 bien.
Et c'est bien parce que c'est très en rapport avec ce dont on va discuter aujourd'hui. C'est une question de normes et de rapport aux valeurs. Et franchement, le débat était assez sidérant, quoi, hein, entre deux générations compliquées. Juste pour synthétiser ce que tu as dit aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on voit en France une ville, un groupe, hein, l'affichage, et quand même, Laval, c'est une ville qui est bien identifiée sur la dernière génération, je trouve. Mmh. Ce qui est assez rare. Je veux dire, Bordeaux, on peut dire Bordeaux Caméra Silence, vous voyez, ce genre d'association, et Laval, c'est Birds in Row, quoi. Clairement, hein, y a quand même un affichage, je trouve, sur cette quatrième génération, scène do it yourself, etc.
Peut-être que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, cette génération a ouvert sur l'international, effectivement.
Ouais,
et
ouais,
ça
ouais,
qui est très paradoxal. Ouais. Là, on peut vraiment parler de glocal, hein, entre global et local. Effectivement, une petite ville, une moyenne ville de France, Mayennaise, mais bon voilà, on connaît, tout le monde ne connaît pas Laval, on va dire, quoi. Et quand même, Laval s'est fait connaître aux États-Unis par l'intermédiaire du label Death Wish, hein, qu'on ne présente plus, hein, qui a été co-structuré par le chanteur de Converge, Jacob Bannon. Donc, c'est pas rien. Hein, le groupe avait signé effectivement sur Death Wish. Hein, Jacob Bannon et Treux, les deux co-structurateurs de ce label-là, ont envoyé un mail directement aux petits Lavalois, quoi, pour signer chez eux. Donc, c'est effectivement, c'est pas rien. Et ce qui a après tissé tout un réseau de cette quatrième génération dans toute la France, autour notamment de Useless Pride, cette usine de merchandising à Toulouse. Bah, voilà. Effectivement, c'est là où on perçoit bien tout le paradoxe de traiter d'un ancrage territorial très précis, mais de voir effectivement que ce réseau-là s'étend à des vitesses.
C'est d'ailleurs pas un paradoxe, c'est même l'avenir de ce projet, je pense, de discuter justement de ce qu'est la scène punk en France, mais non hexagonale, c'est-à-dire comment on réfléchit à un espace qui est multiscalaire, multidimensionnel, et les relations que les gens entretiennent au-delà de l'implantation franco-française. Quoi. Donc c'est l'avenir de ce projet. Quoi.
Voilà, et j'ajoute que la thèse de Manu, qui traite largement de ça, normalement, sera le prochain livre de la collection, vers juillet, quelque chose comme ça.
Ça marche. Et d'ailleurs, on m'a dit, mon petit doigt me dit que ça sortira aussi, ça sera rediffusé sur du coup le label Throatrunner et certainement sur le site des Swish, du coup le livre.
Ah bah super.
Voilà,
super.
C'est en projet, ils m'ont dit.
Très bien, merci beaucoup Manu.
Merci et à refaire.